Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Tous les soirs en France, entre 18 et 20 heures, la Direction Générale de la Santé continue d'égrener les chiffres du coronavirus. Et tous les jours, le nombre de patients admis en réanimation continue de baisser, donnant un peu plus d'air aux hôpitaux et nourrissant la vague d'optimisme qui déferle peu à peu sur la France. Déconfinons et déconfinons totalement, en tentant de plus en plus, dans les conversations et dans les milieux économiques, parfois même dans les milieux sanitaires. Les milieux économiques inquiets d'ailleurs de l'arrivée d'une nouvelle vague, celle des faillites et du chômage, et les acteurs de la culture, il faut bien le reconnaître, ne sont pas les derniers à en pâtir. Bonjour Fanny Blechner.
Bonjour Jean-François.
Des salles de spectacle fermées, des événements annulés, le gouvernement a bien évoqué le cas des intermittents du spectacle, leur promettant une prolongation de leur droit au chômage jusqu'à la fin du mois d'août 2021. Mais dans les faits, le secteur de la culture est en réanimation. Lui, les choses ne sont pas si simples sur les syndicats et surtout, il faut rappeler que tous les artistes n'ont pas ce statut d'intermittent. Vous avez pu rencontrer quelques-uns d'entre eux.
Cette année, pour les primo-accédants, la période pour faire les 507 heures requises a été allongée, mais cela reste compliqué à atteindre actuellement. Aurélien Trévise est musicien, il joue de la batterie dans plusieurs formations et espérait obtenir bientôt ce statut.
On avait au bas mot 10 dates de prévues sur toute la France, et après il y avait d'autres dates qui devaient en fait se débloquer. Et à l'issue de ça, en fait, j'étais censé avoir mon statut d'intermittent du spectacle. Enfin, avant décembre, on va dire. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que tout a été annulé et que pour les histoires de chômage partiel, je sais pas encore si j'ai le droit ou pas. Et comme la plupart des dates en fait n'étaient pas complètement actées en termes de devis, il y a de fortes chances que je récupère rien derrière.
Face à ces annulations en cascade, il a dû trouver rapidement une solution financière. Désormais, il est réparateur de vélo à domicile 3 jours par semaine, ce qui lui laisse moins de temps pour la musique.
Ça fait 2 mois quasiment que j'ai pas joué. J'ai pas le temps de travailler pour moi, ma batterie. Et du coup, là, je peux pas débloquer plus de 2 demi-journées ou 3 demi-journées par semaine, quoi.
L'intermittence apporte une certaine stabilité, mais elle est difficile à obtenir.
C'est-à-dire qu'il faut rentrer dans des projets ou dans des compagnies qui marchent beaucoup et du coup, des fois, faire un peu des concessions au niveau artistique, en fait. C'est-à-dire qu'on va faire des trucs qui nous intéressent un peu moins, mais qui vont payer, entre guillemets, un peu mieux ou qui vont faire des plans déclarés. Et après, en fait, il y a la majeure partie des concerts que moi j'ai fait jusque-là qui sont en fait jamais déclarés.
Lara Bouvet, elle aussi, voulait être intermittente. Elle est comédienne à 27 ans et sort tout juste du conservatoire. Un moment pas forcément opportun pour se lancer sur le marché du travail.
Malheureusement, j'ai l'impression que c'est un peu la pire place. Soit on est déjà comédien institutionnalisé, avec des dates où on sait qu'elles ont été annulées mais elles sont reportées. Soit on est encore étudiant, on n'est pas encore sorti quelque part. Et si on est sur ce moment-là, on sait que de toute façon, nos projets vont passer derrière tous ceux qu'il va déjà falloir attraper.
Au moment de la crise, elle était en pleine phase de création pour un projet théâtral et avait postulé pour plusieurs résidences d'artistes. Idéalement, elle aimerait reprendre ce processus.
Pour avoir aussi une créativité, une disponibilité, il faut être soit hyper OK avec la précarité, soit il faut un minimum de stabilité. Parce qu'en fait, c'est pas vrai qu'on peut comme ça être créatif quand on ne sait pas comment on va payer son loyer. Quoi.
Pour payer son loyer, justement, jusqu'ici, Lara posait en tant que modèle vivant pour les Beaux-Arts, mais ils sont fermés jusqu'en septembre. La période est compliquée aussi pour les artistes-auteurs, dont on entend moins parler, explique Nicolas Dervillers, peintre et photographe.
Par rapport aux intermittents, on est un peu, je pense, plus fragile. On parle un petit peu moins de nous, il n'y a pas vraiment de chef de file. C'est sûr que... Il n'y a pas de star, il n'y a pas de porte-parole en fait réelle.
Une pétition a pourtant été lancée sur Internet pour obtenir davantage d'aide du gouvernement en plus de la prime pour les indépendants. L'exposition de Nicolas a dû être reportée, ce sont donc des ventes d'œuvres qui n'ont pas pu se faire, alors même qu'elles représentent un investissement économique.
Moi j'aime beaucoup finir mes pièces, mettre du verre anti-reflet, avoir des matériaux intéressants. Donc tout ça, évidemment, ça coûte cher, d'autant que on avait prévu aussi de faire des foires. Donc l'économie, elle se passe aussi sur les foires. Donc on avait prévu plusieurs jeux, en fait, de pièces.
Ces pièces sont exposées depuis quelques jours à la galerie Dilecta à Paris, des reproductions de ciel au pastel qui trouvent une résonance inattendue après cette période si particulière.
Oui, et qui n'est pas encore finie. Merci, c'était Fanny Blechner. Il vient d'entrer dans le Larousse 2021 à la lettre M, une consécration pour ce romancier populaire qui publie depuis 20 ans et dont les exemplaires des 18 romans se comptent par plusieurs dizaines de millions. Il vient nous présenter son nouveau roman qui, comme le précédent, parle aussi et peut-être d'abord de l'écriture, des auteurs et de leurs personnages et aussi forcément des lecteurs que nous sommes. Son précédent roman s'appelait justement La vie secrète des écrivains. Il est disponible en poche et il lui a permis d'être l'auteur le plus lu en France pendant le confinement. Sera-t-il aussi l'auteur le plus lu du déconfinement? C'est bien possible. Il est déjà en tête des ventes pour la deuxième semaine consécutive. La vie est un roman de Guillaume Musso vient de sortir chez Calman Lévy et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Guillaume Musso.
Bonjour Jean-François, bonjour à tous.
La vie est un roman, est-ce que c'est aussi ce que vous vous êtes dit quand la crise du Covid a commencé?
Ben, je me suis dit que ça faisait partie de ces moments où justement la réalité dépassait la fiction. Alors souvent on dit que nos vies sont romanesques, mais souvent survient un événement comme ça qui écrase un peu ce qu'on aurait pu imaginer en scénarisant tout ça.
Est-ce à dire que pour vous, comme pour d'autres écrivains d'ailleurs, ce confinement a été une matrice d'écriture?
Absolument pas. Ça a été pour moi de façon très très prosaïque une façon de m'occuper de mes deux enfants qui ont 2 ans et 6 ans. Et face à l'inconnu comme ça, j'ai senti qu'en fait oui, ma mission de père c'était les rassurer, et c'était affecter un comportement qui laissait croire finalement que tout était sous contrôle. Donc j'avais besoin de les réassurer en quelque sorte.
Donc pas de journal du confinement, ni de roman lié au coronavirus en vue?
Non, non, on m'a proposé de tenir un journal, je trouvais ça un petit peu ridicule, je n'en avais ni l'envie ni le temps, et donc voilà, et j'ai appris à mon fils de 6 ans à lire, il est en CP, donc on a lu des romans pour enfants, et c'était très bien comme ça.
Donc le confinement, c'était, comme pour beaucoup de Français, un bon moment pour lire. On a vraiment l'esprit suffisamment libre, suffisamment dégagé pour pouvoir plonger dans une intrigue?
Moi, je pense pas. Hein. J'ai lu, moi, des livres avec des livres pour enfants, parce que j'étais entouré d'enfants, mais j'ai pas du tout... Non, j'avais pas. Parce que vous lisiez 10 lignes, et puis vous étiez... Voilà, vous étiez rattrapé par la réalité, alors vous passiez tout au prisme finalement de ce que vous étiez en train de vivre. Donc non, c'était un moment plutôt perturbant et ni propice pour moi à la création et ni propice à la lecture. Et puis voilà, quand vous êtes au cœur d'un événement, enfin tout ça demandera à être maturé, je pense, avant de donner lieu à des fictions intéressantes.
Bon, en tout cas, les Français, visiblement, eux, ont essayé plus ou moins habilement de lire, et ils se sont reportés sur vos ouvrages, et notamment donc sur La vie secrète des écrivains. Ils ont sans doute aussi un peu joué avec leurs enfants, peut-être lu avec eux, et c'est vrai que c'est dans un lieu presque confiné finalement que débute la vie est un roman. On est dans un lieu clos hein, que débute le récit, et votre narrateur est une romancière à succès qui s'appelle Flora Conway, et elle joue avec sa petite fille qui s'appelle Carrie. Elle joue à cache-cache dans son appartement de Brooklyn. Nous sommes page 24 de votre roman.
Les dernières fois que nous avions joué ensemble, Carrie avait réussi à trouver des cachettes sophistiquées. Malicieuse, elle s'était faufilée derrière le sèche-linge et à l'intérieur du placard à balai. Avec patience, bien qu'un peu agacée, je la cherchais toujours dans les coins et les recoins, derrière chaque meuble. Puis je recommençais. Dans ma hâte, je bousculais la console en chaîne sur laquelle étaient rangés les vinyles et le tourne-disque. Sous l'impact, le bras de la platine fut éjecté des sillons et mit fin à la musique, plongeant la pièce dans le silence. C'est à cet instant qu'une boule se forma au creux de mon ventre. « C'est bon, chérie, tu as gagné !» « Sors de ta cachette, maintenant !» Je filai dans le hall pour vérifier l'entrée. La porte blindée était fermée à double tour. La clé était engagée dans le verrou supérieur, accrochée à un trousseau, hors d'atteinte d'une enfant. « Carrie, sors de ta cachette ! Je t'ai dit, tu as gagné !» Avec toute la raison dont j'étais capable, j'essayais de contenir les vagues de panique qui menaçaient de déferler. Carrie était obligatoirement dans la maison. La présence des clés sur la porte, en bloquant le barillet, interdisait d'ouvrir de l'extérieur même à quelqu'un ayant un double. Quant aux fenêtres, depuis la rénovation de l'immeuble, elles étaient définitivement scellées. Non seulement Carrie n'avait pas pu sortir de la maison, mais personne n'avait pu y entrer. « Carrie, dis-moi où tu es !» J'étais essoufflée comme si je venais de traverser la moitié de Central Park en courant. J'avais beau ouvrir la bouche pour respirer, l'air n'arrivait plus jusqu'à mes poumons. « C'est impossible. On ne peut pas disparaître au cours d'une partie de cache-cache dans un appartement. C'est un jeu qui se finit toujours bien. La disparition est une mise en scène symbolique et temporaire. Il ne peut en être autrement. C'est inscrit dans l'ADN même du concept. On accepte d'y jouer que parce qu'on a la certitude de retrouver l'autre. « Carrie, ça suffit maintenant. Maman n'est pas contente !» Maman n'était pas contente, mais maman avait surtout très peur. Une troisième ou quatrième fois, je vérifiais toutes les cachettes habituelles, puis je m'attaquais au plus improbable. Le panier de la machine à laver, le conduit de la cheminée, bouché depuis des lustres. Je déplaçais le lourd frigo, je coupais même le disjoncteur pour débloquer et ouvrir le coffre du faux plafond qui abritait les conduits de la climatisation. « Carrie !» Mon hurlement résonna dans tout l'appartement jusqu'à en faire vibrer les vitres. Mais l'écho se perdit et le silence revint. Dehors, le soleil avait disparu. Il faisait froid, comme si l'hiver venait de s'abattre sans prévenir. Je restais un instant, figé, en sueur, des larmes coulant sur mes joues. C'est en reprenant mes esprits que j'aperçus un des chaussons de Carrie dans le couloir de l'entrée. Je ramassai la petite pantoufle en velours rose pâle. C'était le pied gauche. Je cherchais l'autre chausson. Mais lui aussi semblait avoir disparu. C'est alors que je me résolus à appeler la police.
Et voilà Guillaume Musso, l'intrigue est en place, une disparition mystérieuse dans un appartement fermé, sans bruit suspect ni présence signalée. En plus, les caméras de surveillance de l'immeuble n'ont rien détecté de particulier. De quoi donc sérieusement inquiéter et perturber cette Flora Conway qui est la narratrice en fait de la première partie du roman qui est intitulée oui. « La fille dans le labyrinthe ». Flora Conway, romancière galloise, lauréate du prix Franz Kafka. Elle est reconnue par la critique, mais c'est aussi une femme mystérieuse. En fait, sa renommée, elle l'a aussi bâtie sur sa discrétion médiatique.
Oui, j'ai voulu un petit peu, quand j'ai construit ce personnage, y mêler des écrivains, des romanciers, des romancières que j'aime bien et qui, au fil des années, justement, se sont construits en essayant de sortir un petit peu du système médiatique, que ce soit Elena Ferrante, que ce soit Milan Kundera qui donne plus d'interviews depuis 85, ou des gens comme Elfriede Jelinek. Et pourquoi j'aime ça? Parce que ce sont des gens qui finalement ont essayé de gagner des degrés de liberté et de remettre un petit peu leur œuvre et leur personnage sur le devant de la scène plutôt qu'eux. Le problème de ça, c'est que bien souvent, ce mystère lié à leur personnalité suscite l'intérêt et on est un petit peu dans l'histoire du serpent qui se mord la queue, quoi.
Oui, mais c'est une stratégie à risque pour un auteur qui veut être lu dans le monde médiatique tel qu'il est. Est-ce que vous avez été tenté vous-même, Guillaume Musso, d'adopter la même attitude? Alors maintenant, c'est peut-être un petit peu tard, mais enfin au tout début.
Oui, non, parce que voilà, moi j'ai toujours pensé que accepter de faire la promotion de mes livres, ça fait partie un petit peu d'une certaine politesse par rapport aux lecteurs, par rapport aussi aux journalistes qui m'invitent, qui me suivent parfois depuis des années. Simplement, je refuse les trois quarts des sollicitations. Je ne vais que dans des endroits où je sais que je vais pouvoir parler soit de mes romans, soit de l'écriture, soit des auteurs que j'aime et pas de la chloroquine, du Tour de France ou de ce que je pense de... Je ne sais pas quel dernier régime à la mode, quoi.
D'accord, bah merci en tout cas d'avoir accepté de parler sur RFI. Alors on a entendu là dans l'extrait Guillaume Musso, la petite fille, elle s'appelle Carrie. Alors oui. Carrie, forcément,
clin d'œil
on se dit,
assumé,
voilà, clin d'œil à Stephen King. Il y a plein de références à King dans ce
oui,
roman,
oui.
Et King, on le retrouve dans la longue liste des références littéraires à la fin de l'ouvrage. Bon, déjà, un petit mot de Stephen King. Qu'est-ce qui vous intéresse? Qu'est-ce qui vous touche chez ce confrère?
Beaucoup de choses. Non, c'est l'un des auteurs qui, quand j'avais 14 ans ou 15 ans, m'a donné le goût de la lecture, de l'écriture. Une œuvre foisonnante, plurielle, souvent mésestimée par la critique à ses débuts. Souvent, les gens qui n'avaient pas lu pouvaient avoir une image assez fausse de son œuvre. C'est-à-dire son œuvre est assez plurielle, pas uniquement dans la veine du surnaturel, du fantastique. Mmh. Et ce que j'aime bien dans King, c'est toujours c'est l'humanité des personnages. C'est pas tant les situations qu'il arrive à créer que les personnages finalement très humains, et c'est ça qui m'a plu. C'est un auteur finalement que je continue à lire. Enfin, c'est un modèle de persévérance, il continue à sortir des livres, à sortir des bons livres. Il se repose pas sur ses lauriers. Bon, c'est devenu un mythe, une icône, et d'où cette intérêt, oui.
Alors King fait donc partie de cette longue liste de références littéraires à la fin du roman. Elles sont nombreuses et elles sont surtout très très éclectiques. Pourquoi est-ce que vous tenez tant à les citer? Il y a très peu d'écrivains qui le font.
Par honnêteté d'abord, je n'aime pas voir dans des interviews ou des livres des gens comme ça qui s'attribuent des phrases ou des idées sans en tracer la paternité. Ensuite, moi, je sais pas, j'étais professeur pendant 10 ans. J'aime cette idée d'être un passeur de culture. J'ai toujours aimé, en tant que lecteur, qu'un livre me donne envie de lire d'autres livres. Et donc, ce jeu avec les lecteurs, c'est institué comme ça au fil des années. Je suis très fier lorsque des lecteurs viennent me voir et me disent, ben voilà, j'ai lu Le Hussard sur le Toit, Le Prince des Marais, Belle du Seigneur, parce que vous les citez souvent en interview, dans vos livres. Et surtout, je tiens à cet éclectisme-là. Moi, j'ai eu la chance d'être élevé par une mère bibliothécaire qui me disait toujours, voilà, lis Balzac, lis Flaubert, Proust, mais lis aussi Barjavel, Pagnol, King, et surtout, voilà, prends du plaisir dans la culture. La culture, ça doit pas être quelque chose de snob, ça doit être un vecteur aussi de plaisir.
C'est pas le paradis, y a du parfum dans l'air, et puis de vrais amis qui font tourner les verres. Je peux pas sortir d'ici avant de trouver la rime qui me fait passer mes nuits. On se barre de Brooklyn. C'est près de Manhattan, mais c'est tellement ailleurs que le temps se pavane avec d'autres couleurs. Y'a un juif arménien qui parle de Caruso avec un brésilien qui se tape un risotto. Brooklyn, Brooklyn, Brooklyn by the sea. Brooklyn, Brooklyn, Brooklyn by the sea. Partent en voyage juste au-dessus des toits. Dans un nuage, juste au passage, un souvenir de toi. Et la rivière fuit sous les ombres du pont, et ton visage aussi, il me reste ton nom. Cette ville horizontale, cette femme allongée, cette lumière verticale, ce souffle de rosée. Le jour où tu viendras t'installer à Brooklyn, je sais que tu comprendras, cette ville est ma frangine. Le jour où tu viendras t'installer à Brooklyn, je sais que tu comprendras, cette ville est ma frangine. Brooklyn, 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 my city. Brooklyn, Brooklyn, Brooklyn by the sea. Brooklyn, Brooklyn, Brooklyn by the sea. Brooklyn, Brooklyn, Brooklyn by the sea.
Brooklyn, Bernard Lavilliers dans VMDN sur RFI avec Guillaume Musso, l'auteur de La fille de Brooklyn ou de Central Park, et qui publie donc La vie est un roman aux éditions Kamen Levy. Pourquoi, Guillaume Musso, êtes-vous si attaché à New York et singulièrement à ce quartier de Brooklyn?
C'est d'abord voilà une ville que je connais un peu. J'y ai travaillé quand j'étais plus jeune, j'y retourne souvent. C'est surtout un théâtre incroyable. On se dit que New York, c'est la ville dans laquelle tout peut arriver, l'attentat le plus atroce, la plus belle des histoires d'amour, le mystère le plus fascinant. Donc ça ouvre pour moi c'est comme un décor de théâtre qui permet un petit peu voilà la suspension pardon de l'incrédulité du lecteur. Et pendant longtemps, ça a été pour moi un moyen de situer mes histoires dans un endroit qui était très 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 éloigné de mon quotidien, et c'était propice finalement à stimuler mon imagination.
Et donc singulièrement ce quartier de Brooklyn. Brooklyn, c'est votre frangine, pour reprendre l'expression de la ville?
Non. Alors moi, j'ai pas de fascination par rapport au modèle américain, par rapport à... C'était plutôt au départ une facilité, voilà, un moyen. Il se trouvait que mon imagination était se déclenchait beaucoup plus vite dans un décor qui n'était pas mon décor quotidien. Moi, j'habite à Paris depuis 10 ans. Avant ça, j'habitais dans le sud-est de la France, donc je suis pas du tout, j'ai pas ce rêve américain, mais c'était, vous savez pas pourquoi, vous avez parfois du mal à rationaliser pourquoi votre imaginaire parfois joue et se déclenche mieux dans certains endroits, et là, Manhattan, Brooklyn, c'était des endroits à la fois qui m'étaient familiers, mais dans lesquels j'évoluais pas dans mon quotidien, et il s'est trouvé que mes premiers romans étaient effectivement ancrés dans cet imaginaire collectif un petit peu nord-américain. Les derniers, beaucoup moins. Celui-ci, c'est vrai, commence à Brooklyn, mais on est tout le temps dans l'appartement finalement de Flora. Il y a ce côté enfermement qu'on comprend ensuite davantage dans le cours du récit.
Mais l'imaginaire collectif que vous évoquiez à l'instant, Guillaume Musso, est-ce qu'il s'est bâti aussi à travers la littérature new-yorkaise, à travers les séries télé, à travers les films, je sais pas, de Woody Allen ou de Scorsese?
Oui, bien sûr, de façon très 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 nette. Après quelques livres, j'ai eu l'impression, voilà, d'avoir fait le tour de ça. J'ai eu envie, dans mes derniers livres, de revenir finalement à mes racines aussi du sud-est de la France. Enfin, le fait d'avancer dans l'âge vous donne parfois envie de d'écrire ce que vous avez vécu et connu avant, Et d'ailleurs, je pense que le prochain livre que je suis en train d'écrire se passera aussi dans la ville d'Antibes.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Guillaume Musso pour La vie est un roman chez Kelman Levy. Alors dans La vie est un roman, il n'y a pas que Flora Conway hein, qui vit donc à New York de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a aussi Romain Ozorski qui lui se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Ou plutôt, il y a pas deux écrivains en fait, il y en a trois. Car il ne faut pas vous oublier vous aussi, hein, Guillaume Musso. Il y a aussi l'écrivain qui tient donc la plume et qui partage l'histoire avec les lecteurs. En quoi l'écrivain est-il un bon personnage de roman ?
Moi, ce livre, j'avais pas prévu de l'écrire. Je travaillais sur un autre projet et un matin, je me suis levé, je me suis dit non, voilà, il faut que j'écrive sur ce que j'ai vraiment envie d'écrire. Souvent, je dis, et Romain le dit là dans le roman, un bon roman, enfin un roman réussi, c'est comme une histoire d'amour réussie. Une histoire d'amour réussie, c'est rencontrer la bonne personne au bon moment. Et un roman réussi, c'est lorsque vous avez certes une bonne histoire, mais que vous êtes dans un moment de votre vie, vous allez être le plus capable de raconter cette histoire avec justesse. Et ça fait 15 ans finalement que je fréquente le monde de la fiction. 15 ans que je me lève tous les matins, que j'allume mon ordinateur, que je me dis voilà, qu'est-ce que je vais bien pouvoir écrire aujourd'hui, et surtout que je me dis qu'est-ce que mes personnages vont me réserver aujourd'hui. Et ces 15 ans de fréquentation du monde de la fiction me donnaient cette expérience, cette légitimité pour pouvoir finalement répondre à des questions que me posent beaucoup les lecteurs, à moi et à d'autres auteurs, hein, lors des séances de signature, lors de conférences, lors de rencontres en librairie. Et ces questions tournent beaucoup, non pas du tout par rapport à votre vie privée, mais par rapport à votre vie d'auteur. Mmh. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on écrit un roman, d'où vous viennent vos idées, y a-t-il des méthodes d'écriture, combien de temps mettez-vous pour écrire. Et donc vraiment dans ce roman, j'ai voulu ouvrir un petit peu la boîte noire du romancier et proposer au lecteur, voilà, certes une enquête policière là dont on a parlé, qui ressemble un peu à une sorte de mystère de la chambre jaune version 2020, mais de résoudre cette enquête à travers aussi l'écriture d'un roman et à travers un romancier qu'on voit au travail.
Est-ce à dire que Romain Ozorski, c'est un peu Guillaume Musso?
Romain Ozorski, c'est pas du tout Guillaume Musso dans sa vie amoureuse qui est très très tourmentée, et heureusement pour moi je suis loin de vivre les tourments et les malheurs de Romain.
Faut me rassurer.
Par contre, voilà. Par contre, oui, c'est un peu pour certains aspects du travail d'écrivain, oui, ça permet de faire passer certaines choses que je peux ressentir, bien que tout ça passe à la moulinette de la fiction, et c'est d'abord une histoire. Mais oui, c'est un peu un personnage miroir néanmoins.
Oui, donc Romain Ozorski, c'est Guillaume Musso avec un petit peu de Simenon, un petit peu de Romain Gary aussi.
C'est ça, oui. C'est-à-dire, c'est ces deux auteurs qui m'ont vraiment accompagné depuis des années, que je lis, que je relis, qui ont des œuvres vastes, plurielles, et dont la vie, finalement, la vie personnelle, la biographie me fascine autant que l'œuvre, que les romans. Simenon, c'est un modèle dans la complexité de ces personnages, la complexité de l'âme humaine. Kundera disait voilà, l'esprit du roman, c'est l'esprit de la complexité. Oui, on est dans un monde complexe, et malheureusement le débat public actuel voudrait tout ramener à des oppositions manichéenne, imbécile, qui nous infantilise, et le roman reste quand même un vecteur de cette complexité, à la fois de la complexité du monde, mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est notre complexité intime, notre vie secrète qu'on porte tous, et parce qu'on est des êtres traversés par le doute, par des désirs et des ambitions contraires, par des tourments, mais aussi des moments beaucoup plus solaires. Et ça, même dans un Simenon un peu moins réussi, vous avez toujours 10 ou 15 pages qui vous font accéder à la condition humaine et à un côté très très universel.
Et Romain Gary, est-ce que vous avez publié, comme lui, un livre sous pseudonyme, Guillaume Musso?
Non, alors c'est vrai que Romain Gary, dans son histoire personnelle, je suis très sensible à la souffrance qu'il avait à la fin de sa vie.
Oui.
D'être lu à travers l'étiquette Romain Gary. Vous lisez Vie et mort d'Émile Ajar. Et il vous explique de façon assez poignante combien, à un moment, à la fin de sa vie, il est fatigué de la réception de ses œuvres parce que il a l'impression que ses textes ne sont plus lus qu'à travers le personnage un petit peu encombrant, la légende vieillissante Romain Gary. Et c'est là qu'il a ce coup de génie qui, au début, et ludique de prendre ce nom de plume d'Émile Ajar, d'obtenir le Goncourt une deuxième fois, mais cette supercherie littéraire géniale au départ lui amène de la joie, et au fur et à mesure le tourmente beaucoup, devient encombrant. Et ce que j'aime beaucoup, c'est ce panache qui fait que, voilà, il l'a pas révélé avant de mourir.
Alors, vous n'avez pas répondu à ma question, quand même.
Oui,
hein,
si pardon.
Vous avez déjà fait comme Romain Gary en publiant... Vous en écartez l'idée?
Non, oui, parce que c'est... Moi, j'ai pas ce problème-là, j'ai pas cette... J'ai pas ce tourment-là. Je sais pas... De ma part, je sais pas, je trouve que ça serait un petit peu vaniteux de dire, ah ben voyez, je vous ai joué un tour, j'ai écrit un livre sous un autre nom. Moi j'ai aujourd'hui, à 45 ans, je mène la vie que je voulais mener quand j'avais 14 ans, 15 ans. Lorsque je disais Pagnol, Barjavel, Stephen King, je me disais, voilà, si un jour je pouvais gagner ma vie en écrivant des histoires et avoir des lecteurs qui attendent mes livres, oui, ça serait le bonheur. Donc je suis arrivé à ça, et donc je vais pas m'inventer une frustration que je n'ai pas.
Rêver. Chercher, apprendre, n'avoir que l'écriture et pour maître et pour Dieu, tendre à la perfection à s'en crever les yeux, choquer l'ordre établi pour imposer ses vues, pour fendre, choisir, saisir, comprendre, remettre son travail 100 fois sur le métier, salir la toile vierge et pour mieux la souiller, faire hurler sans pudeur tous ces espaces nus, surprendre. Traverser les brouillards de l'imagination, déguiser le réel de l'ombre d'abstraction, désenchaîner le trait par 1000 variations, tuant les habitudes, changer, créer, détruire, pour briser les structures à jamais révolues, prendre les contre-pieds de tout ce qu'on a lu, s'investir dans son œuvre à cœur et corps vêtu, écrire, de peur, de sueur, d'angoisse, souffrant d'une étrange langueur qui s'estompe parfois mais qui refait bientôt surface, user de sa morale en jouant sur les mœurs et les idées du temps, imposer sa vision des choses et des gens, quitte à être pourtant maudit, aller jusqu'au scandale, capter accepter de son sujet la moindre variation, explorer sans relâche la forme et le fond, et puis l'œuvre achevée, tout remettre en question, déchiré d'inquiétude, souffrir, maudire, réduire l'art à sa volonté brûlant d'énergie, donner au sujet mort comme un semblant de vie, et lâchant ses démons sur la page engourdie, écrire, écrire, écrire comme on parle et l'on crie. Il nous restera ça. Il nous restera ça.
Écrire Charles Aznavour dans VMDN sur RFI. Vous vous reconnaissez peu ou prou Guillaume Musso dans les mots d'Aznavour?
Oui, oui, c'est un beau texte qui brasse plusieurs idées différentes. Il y a celle de la souffrance. Mmh. J'aime bien cette phrase de Anaïs Nin qui disait « Je déteste écrire, mais j'adore avoir écrit ». Et c'est vrai que vous avez cette idée quand même que voilà, moi pour moi l'écriture c'est quelque chose de qui n'est pas simple et auquel je consacre tout mon temps, c'est-à-dire que j'ai organisé ma vie vraiment en fonction de l'écriture. Je travaille jamais chez moi, c'est j'amène mon fils à l'école le matin et je vais dans un bureau atelier que j'ai aménagé, qui est vraiment mon lieu de travail dans lequel je passe ma journée. Et j'ai besoin, ben justement, comme disait Stephen King, de fermer la porte. King, dans Écriture, mémoire d'un métier, dit l'une des choses les plus importantes lorsqu'on écrit, c'est d'arriver à fermer la porte. Fermer la porte, ça veut dire s'abstraire de notre réalité et de notre vie quotidienne et traverser le no man's land qui nous mène à cette vie, à ce monde imaginaire. Et c'est parfois compliqué d'y rentrer et parfois encore plus compliqué d'y sortir. Et c'est l'un des thèmes là du roman aussi.
Mais alors, est-ce que, comme l'éditrice de Flora Conway, qui s'appelle Fantine, comme le personnage des Misérables, vous pensez, peut-être aussi un petit peu comme Aznavour d'ailleurs, que la douleur est le meilleur carburant de l'écrivain?
Je pense que beaucoup de romanciers sont des êtres finalement un peu schizophréniques qui, au moment où ils vivent une douleur, se mettent déjà à se demander comment ils pourront utiliser cette douleur plus tard dans la fiction. C'est-à-dire que tout fait farine dans le moulin des romanciers. Vous êtes constamment à l'affût, certes, d'une idée, d'un sentiment, en tout cas de choses que vous allez pouvoir utiliser dans votre livre, oui.
Est-ce que, comme Romain Ozorski, vous pensez que l'écriture permet d'évacuer ses névroses et ses obsessions, Guillaume Musso?
Je n'en sais rien. En tout cas, l'écriture ne permet pas de résoudre des problèmes intimes, psychologiques. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai jamais moi le moteur de l'écriture. Je pense que ça a été le désir de maîtrise. On maîtrise notre vie de façon très imparfaite, vous en conviendrez. Et on se dit finalement, ben voilà, je vais créer un monde imaginaire dans lequel je vais être le démiurge. Quand Nabokov dit « mes personnages sont mes galériens qui doivent m'obéir au doigt et à l'œil », voilà, il a ça en tête.
Mais un écrivain, c'est Dieu ou c'est le diable ?
Ben c'est-à-dire, un écrivain au début, en tout cas je vous parle... Pour moi, il y a cette volonté justement, voilà, de maîtrise, d'organiser un monde tel qu'on aimerait qu'il soit et non pas tel qu'il est. Le problème, c'est que le monde imaginaire a aussi ses propres règles. Les personnages ne vous laissent pas forcément faire ce que vous aviez ce que vous aviez en tête pour eux. Et c'est pour ça qu'il faut à la fois, Pierre Lemaître en parle assez bien lorsqu'il dit vous devez faire confiance à l'écriture, mais pas trop. Ça veut dire que vous pouvez pas partir comme ça, la fleur au fusil, pour écrire un roman de 400 pages. Vous devez avoir d'abord un plan, vous devez avoir des personnages, de la documentation, mais tout ça doit être finalement pas trop corseté pour que au moment où vous écrivez, vous soyez ouvert quand même à ce que vont pouvoir vous proposer vos personnages.
Alors les personnages justement, Guillaume Musso, est-ce que comme Romain Ozorski, eh bien certains d'entre eux viennent se venger en quelque sorte et reviennent vous hanter une fois le livre publié, peut-être même parfois des années après.
Alors oui, c'est un peu cliché de le dire, mais c'est pas faux. C'est-à-dire que à la fois l'écriture est un jeu qui se joue à deux. Un roman n'existe vraiment qu'à partir du moment où il est lu et donc où il commence à exister dans l'imaginaire des lecteurs. Et les lecteurs souvent vous demandent, mais finalement, que devient tel ou tel personnage ? Et ce qui est assez drôle, c'est que pour certains personnages, vous savez très bien où ils sont, vous savez très bien ce qu'ils sont devenus, vous savez très bien s'ils sont heureux ou pas. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus nébuleux. Il m'est arrivé une seule fois dans ma vie où j'ai écrit une suite de livres, enfin un deuxième tome, disons, en reprenant le même personnage, parce que oui, j'avais vraiment envie de savoir ce qu'il était devenu et advenu à ce personnage.
Est-ce que, comme Flora Conway, vous avez une éditrice ou un auditeur un peu envahissant et qui pense que vous lui devez tout ?
Non, heureusement, j'ai une éditrice, il s'appelle Caroline Lépé, qui a le même âge que moi, que je connais depuis 20 ans, qui a été la première à lire mes manuscrits, et surtout qui m'a connu avant le succès, et qui est, avec ma femme, ma première lectrice, c'est-à-dire, et j'aime bien lui envoyer finalement les chapitres au fur et à mesure que je les écris, pour avoir un retour, alors qui est un retour essentiellement oral, des discussions, et c'est important d'avoir sur votre travail un œil de quelqu'un qui sait exactement jusqu'où il peut vous pousser pour l'améliorer.
Et est-ce que, comme Flora Conway, vous ne lisez pas les courriers des lecteurs parce que ça vous intéresse pas de savoir ce qu'ils pensent des livres ?
Non, alors elle est moi, je l'ai dit, mais Flora, elle a cette idée en tête que finalement, elle reprend une vieille idée de Borges, qui est en fait le romancier écrit le livre qu'il peut, et les lecteurs lisent le livre qu'ils veulent, et que donc finalement, il y a cette incompréhension entre le romancier et ses lecteurs, et encore plus quand vous avez du succès. Vous savez, là, Duras, avec lorsque elle avait vendu 800 000 exemplaires de L'Amant, elle disait que tout ça était un immense malentendu et que les lecteurs n'avaient pas ne lisaient pas le livre pour ce qu'il était.
Et les lecteurs, en tout cas, sont au rendez-vous de ce nouveau roman. Merci beaucoup, Guillaume Musso.
Merci à vous.
La vie est un roman à découvrir, donc, aux éditions Kahneman Lee.
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Direction Vienne en Autriche, où le musée Léopold met à l'honneur Hundertwasser, peintre, penseur et artiste autrichien, architecte également, dont on célèbre cette année les 20 ans de la disparition. Une exposition s'intéresse aux correspondances entre son œuvre et celle du peintre et poète Egon Schiele, qui l'a fortement inspiré. Une exposition initialement prévue jusqu'au mois d'août, mais qui devrait être prolongée jusqu'à janvier 2021, en raison de la crise sanitaire bien sûr. Isorias l'a visité pour nous.
Hundertwasser est né en 1928, soit 10 ans après la mort d'Egon Schiele. C'est lorsqu'il est étudiant en art à la fin des années 40 qu'il découvre l'œuvre de ce dernier. Le coup de foudre est immédiat pour le jeune artiste, comme l'explique Hans-Peter Wiplinger, directeur du musée Leopold.
Hundertwasser se rend à Paris où il vit durant plusieurs années. Il fut alors une sorte de promoteur de l'œuvre de Schiele qui n'était pas très connue à cette époque, ce que Hundertwasser ne parvenait pas à comprendre. Il pensait que si Schiele avait été un artiste français et non autrichien, il aurait la notoriété de Van Gogh et d'autres. Hundertwasser a étudié en profondeur l'œuvre de Schiele et on le voit très clairement dans les siennes, en particulier celle des années 1960.
L'exposition est un dialogue entre les œuvres de ces deux artistes avant-gardistes, analogie thématique et esthétique, avec par exemple l'usage de la spirale. Le tableau Le Grand Chemin, peint par Hundertwasser en 1955, en représente une. Il est exposé juste à côté de Lévitation de
Schiele. En confrontant les œuvres de ces deux artistes, on en découvre de nouveaux aspects, comme ici, le retour de ces deux peintres à l'Antiquité, à l'Égypte ou à la Grèce. Durant ces périodes, le symbole de la spirale est utilisé. C'est là où la vie apparaît, puis disparaît. C'est le symbole du cycle de la vie. On le retrouve chez Hundertwasser, qui en était conscient, et dans certaines œuvres de Schiele également.
L'usage des lignes et des couleurs est ce qui rapproche le plus l'œuvre d'Hundertwasser et de Schiele. C'est très frappant lorsqu'ils peignent des paysages. Les deux artistes ont un rapport intime à la nature. Une pièce s'y intéresse et montre la maquette d'une maison végétalisée réalisée par Hundertwasser.
Hundertwasser a beaucoup réfléchi à la manière de combiner la civilisation et la nature, et il a trouvé des solutions très intéressantes. Beaucoup d'entre elles sont aujourd'hui très à la mode, comme les murs végétaux. Nous essayons de montrer dans cette salle à quel point c'était un artiste visionnaire. Et si vous regardez les arbres peints par Schiele, vous verrez qu'ils ressemblent à des êtres humains. Schiele n'était pas religieux, mais en un certain sens, sa religion était la nature. Bien sûr, à l'époque, on ne parlait pas de protection de la nature, mais il y a des points communs.
Deux artistes engagés donc et qui partagent une même vision de l'art.
Dans leurs dessins, leurs tableaux, mais aussi leurs photographies, on peut voir que ces deux artistes comprenaient très bien l'importance de l'autopromotion. Ici, vous voyez Hundertwasser dans une robe merveilleuse qu'il a lui-même confectionnée. Schiele, lui, utilisait ses mains pour exprimer quelque chose. Il le faisait dans ses dessins et ses peintures, mais aussi lorsqu'on le photographiait, comme vous le voyez ici. Pour ces artistes, ce n'est pas seulement une manière de s'autopromouvoir, cela montre aussi leur besoin de s'exprimer, de montrer ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Ils pensaient réellement qu'avec leur art, ils changeraient le monde.
Cette vision de l'art, les deux artistes l'ont également exprimée par les mots. En témoigne ce poème où Hundertwasser écrit « Comme Schiele, mon père, je rêve souvent de fleurs rouges, d'oiseaux et de poissons volants, de jardins en velours vert émeraude et de gens qui errent en pleurs dans le jaune rougeoyant et le bleu océan. »
Voilà, et un peu de poésie, rien de mieux pour terminer la semaine. C'était Isorias à Vienne. Dans un instant, le journal sur RFI, on se retrouve lundi avec une bande dessinée Black Squaw, le premier tome d'une nouvelle série signée Yann et Henriet qui paraît aux éditions Dupuis. Et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.